Top, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est 9h40 et je suis heureuse de retrouver l'Instant M pour une nouvelle semaine.
Une série, on sait que ça va se terminer.
Vous me spoilez?
Le spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Une super production télévisuelle, le grand retour de la fiction en costume sur TF1, Tintin, 17 millions d'euros pour 8 épisodes, un financement bouclé par Netflix. Donc dans quelques jours, chers amis, le bazar de la charité devient une série internationale siglée Netflix Original. D'ici là, plongez dans une histoire bien française, celle de la Troisième République. Une France profondément divisée, une entrée mouvementée dans le libéralisme et la modernité. En ce 4 mai 1897, lorsque 120 personnes moururent dans l'incendie qui ravagea une vente de bienfaisance, essentiellement des femmes de la haute société, c'est tout un rapport de force qui en fut modifié. Attentat, féminicide, liberté de la presse, indépendance de la justice, c'est fou ce que la belle époque résonne avec la nôtre.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
J'ai lu votre article sur la lâcheté des hommes de l'aristocratie. C'est quoi l'accroche déjà? Ah oui, mais où étaient les hommes racoleurs à souhait?
On a retrouvé leur canne avec du sang coagulé. Des cheveux, des longs cheveux de femme. Ils ont frappé celles qui étaient sur leur chemin. Ils les ont jetés à terre, ils les ont piétinés pour sortir. Fallait le taire, peut-être? Ah, c'est sûr, ça aurait été moins racoleur. Pas vrai?
Faites votre boulot. Je le mien.
La voix très reconnaissable pour les auditeurs d'un France Inter de Stéphane Guillon, empêcheur d'une enquête de tournée en rond. Bonjour Catherine Rambert, bonjour. Soyez la bienvenue sur France Inter. Vous êtes l'auteur de cette série, à vos côtés Alexandre Laurent, son réalisateur. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
8 épisodes sur TF1, 2 dès ce soir. Je vais citer tout de suite votre chef décorateur, il s'appelle Hervé Gallet, votre costumière Valérie Ada. Pourquoi je les cite? Parce que visuellement, cette série historique, elle est très très belle à regarder. Est-ce que vous aviez des modèles en la matière, Alexandre Laurent, réalisateur?
Alors, mon modèle, je ne sais pas pourquoi, bizarrement, c'était un film de David Fincher dans l'incroyable histoire de Benjamin Button.
Ouais.
Il y avait des séquences qui se passaient dans un port, ça grouillait de vie. Mm-hmm. Et je me suis dit que si je faisais un film d'époque, et en l'occurrence c'était le bazar de la charité, je voulais que c'est plus autant grouillé.
Alors avec l'idée qu'on filme en grande partie, en majeure partie, la haute société, donc on va s'en mettre plein les yeux, ça va être un ravissement de somptueux hôtels particuliers, ceux de l'aristocratie à la fin du 19e, qui sont d'ailleurs souvent plus réussis que les bas-fonds de Paris, parce qu'il y a un travail de reconstitution qui n'est pas tout à fait le même.
Tout à fait. Bah, la rue du Boucan, en fait, là où habite Victor, le coin des anarchistes, c'est une rue en studio à Bray-sur-Marne.
C'est ça.
Et ensuite,
ça sent un petit peu le studio. Voilà.
D'accord.
Alors ensuite... que ces grands hôtels particuliers fastueux.
Exactement, ce sont des vrais hôtels particuliers dans lesquels nous avons tourné en région parisienne. Et sauf un, c'est-à-dire celui de l'Anvers-Près, où on a séparé les intérieurs et les extérieurs. En fait, on a tout fait au même endroit.
D'accord.
J'avais envie de pouvoir lier.
Et
les
rues de Paris et les extérieurs, chers amis, parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Comment maquille-t-on les rues de la capitale? Comment transforme-t-on les passages de fiacres en quelque chose de réaliste dans le décor urbain qui est le nôtre aujourd'hui?
Le choix que nous avons fait, en fait, c'est qu'on n'a pas eu vraiment besoin de maquiller. On est allé en face de Notre-Dame.
Ouais.
Et là où on s'est mis, en fait, on tourne à 360 degrés. Et en fait, c'est du haussmannien. Il a fallu surtout bloquer la route, effacer quelques feux rouges et quelques grues. Mais en fait, on a essayé de tourner dans des quartiers de Paris qui n'avaient pas encore été trop détériorés.
C'est très intéressant parce que sur les écrans de cinéma, en ce moment, il y a le J'accuse de Polanski.
D'accord.
Qui, lui, a opté pour un procédé de rajeunissement de Paris numérique.
D'accord.
Donc ça fait une image très plate, très lisse, très jeu vidéo. La vôtre, elle est très réaliste, en réalité.
Ben merci beaucoup, mais elle n'est pas très truquée, en fait.
C'est ça. Allez, les dialogues.
Et vous pourriez vous excuser?
Excuser de quoi? De travailler? Ben alors, excusez-moi de travailler. Vous savez ce que c'est, ça, le travail, ou pas? Pensez en tout cas à être un peu plus vigilante la prochaine fois. Vous avez égaré ça. Au plaisir, Votre Altesse.
Au plaisir, Votre Altesse. Quel goujat, celui-là.
Catherine Rambert, comment est-ce que vous vous plongez dans la langue du 19e? Comment est-ce que vous faites vivre des personnages d'il y a un peu plus de 100 ans aujourd'hui pour les rendre à la fois actuels et vraisemblants?
Bah justement, on a essayé de les faire parler. Bon, j'aimerais bien qu'on cite Karine Sprzkowski, qui est ma co-scénariste,
bien sûr.
Donc, on s'est plongé dans la façon dont ils parlaient à l'époque, mais on a surtout voulu les faire parler comme maintenant, pour que les gens se retrouvent dedans, s'identifient, parce que sinon, ça donne une distance. Et puis, je crois qu'on ne sait pas vraiment comment ils parlaient à l'époque. On connaît que les récits écrits, les romans, les pièces de théâtre. Et c'était pas comme ça qu'ils parlaient, notamment les gens du peuple, mais même, je pense, dans la haute société. Et je crois que l'émotion, pour que les gens ressentent l'émotion, il faut qu'ils parlent comme aujourd'hui. Alors évidemment, on a essayé d'éviter quelques anachronismes.
Alors,
ils ne parlent pas en verlan.
Cet incendie, il a vraiment eu lieu. Tout il a fait. Même vraiment marqué cette fin de siècle à Paris.
Comme le Titanic.
Titanic. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant comme parallèle.
Allusion.
Oui, c'est intéressant.
C'était bien après le Titanic.
Mais
il était en construction, je pense.
Voilà. Et puis le Titanic, c'est l'histoire d'une aristocratie, en tout cas d'une élite qui va sombrer dans les flots.
Là, elle prend feu.
C'est la fin d'un monde. C'est très proustien, finalement.
Oui,
c'est
oui,
un ancien
fait,
monde qui s'éteint. Quelle est la part d'histoire, avec un grand H? Quelle est la part de fiction? Comment vous avez joué avec ce curseur-là dans l'écriture?
Alors, la part d'histoire, c'est l'incendie du bazar de la Charité.
La part de fiction, c'est tout ce que vous...
Tout le reste.
C'est tout ce que faites vivre à vos personnages ensuite.
Même tout ce qui est, entre guillemets, politique, le thriller politique... C'est inventé, bien sûr. Comme ça échoue, on peut se dire que c'était peut-être dans les secrets que ça a pu se passer,
dans les coulisses.
Mais on a pratiquement tout inventé. Il y a le vol des bijoux aussi, qui est... Moi, je trouve que c'est
un peu... Tiré
d'un fait réel. Il y a des choses comme ça, mais
c'est-à-dire
sinon...
que les bijoux de ces femmes extrêmement riches ont été volés ensuite dans les hôpitaux et les morgues où on a recueilli les corps après l'incendie.
Il faudrait peut-être pas trop spoiler.
Non.
De toute façon, c'est un détail. J'en parle parce que... En le revoyant, je me disais, c'est quand même too much. Mais c'est vrai.
C'est vrai.
C'est la vérité.
Allez, on s'y replonge. Rue Jean Goujon, 4 mai 1897, le feu. Alors, un décor qui prend feu de manière aussi spectaculaire. Alexandre Laurent, comment cela se tourne-t-il? C'était votre morceau de bravoure. Catherine Rambert ne vous a pas épargné. Elle l'a collé dès le premier épisode.
Il s'en est très bien sorti.
Allez-y, racontez-nous.
C'est évidemment beaucoup de boulot, parce que pas encore fait pour moi.
Là aussi, moi, j'aimerais bien savoir où est le curseur. Où est le curseur du décor réel? Où sont les flammes? Où sont les effets numériques?
Alors, tout ce qui est en extérieur, il n'y a aucune flamme. Le bazar n'existe pas. Nous avons juste posé à coller sur une façade existante dans Paris des planches de bois qui sont les soubassements du bazar.
D'accord.
Tout ce qui est en pierre. Tout ce qui est en bois en extérieur, c'est de la 3D, pour le coup, avec des fausses flammes. Donc en extérieur, à cause du plan Vigipirate, nous n'avons plus le droit de mettre aucune fumée ni flamme. Enfin,
d'accord.
Si de la fumée, oui, mais pas de flamme. Ensuite, en studio, on a recréé un décor avec du bois et demi-figé. Dans lesquels nous avons mis des vraies flammes, que nous avons ensuite gonflées numériquement.
Combien de techniciens pour réaliser ça? Combien de temps?
Alors, l'incendie, tout ce qui est parti bazar de la Charité, c'est-à-dire avant et après et pendant incendie, c'est 18 jours de tournage.
18 jours de tournage.
Donc 6 en extérieur et 12 en intérieur.
Alors, la clé de voûte de cette histoire du bazar de la Charité, un peu comme dans la littérature anglaise, un peu comme dans les romans de Thomas Hardy, ce sont les mariages. Les mariages, la clé de voûte de l'ordre social.
Il faut absolument qu'elle accepte ce mariage.
On s'était promis de la laisser libre de ses choix, Augusta. Tu t'en souviens?
Je peux pas faire autrement, Mathilde. Tu sais très bien que sans ce mariage, c'est la ruine qui nous attend.
À qui la faute? À cause de toi, si nous sommes ruinés.
Ma fille est morte dans l'incendie. Et je refuse que de l'attrait moi et mon gendre, cet escroc, hérite de sa fortune. Donc de celle de mon petit-fils. Il avait besoin d'argent, on avait envie d'une particule. On n'aurait jamais dû accepter ce mariage.
Catherine Rambert, les grandes familles s'unissent pour se doter d'une particule, les bourgeois les plus riches pour sauver la façade, l'aristocratie est sans le sou, c'est-à-dire qu'on voit bien là, à travers le mariage, que vous avez réussi à tricoter des rapports de force sociaux, des histoires de catégories sociales dont les limites sont de plus en plus complexes et plus en plus floues à l'orée du XXe siècle, et puis des histoires de femmes.
Tout à fait, oui, oui. Alors ces histoires de mariage, on pourrait penser que c'est daté, mais bon, je crois que des mariages arrangés, il y en a toujours, notamment dans d'autres sociétés. Et je pense que ça va les concerner, j'espère. Et puis bon, on se marie quand même dans la même classe sociale, même à notre époque. Hein, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Ensuite, bon, je trouve, c'est pour ça que j'aime bien faire de l'historique, parce que les barrières sociales, c'est clair et net. Quoi.
C'est ça.
Donc
c'est,
on peut se bagarrer.
C'est très visuel. Bon,
voilà, c'est
d'abord.
Très visuel. On peut se bagarrer.
Ouais.
C'est beaucoup moins subtil qu'à notre époque.
Et puis
époque.
En réalité, cette série, elle raconte l'histoire de trois femmes qui, chacune à leur manière, créent l'irruption de la plèbe dans une aristocratie très, très endogène, hein, très fermée sur elle-même.
Tout à fait, ouais. Ouais. On pourrait croire que, oui, les femmes et les ouvriers, même combat.
Ouais.
Mais c'est pas toujours le cas, quand même.
Là, vous montrez des femmes qui vont défier l'autorité de leur mari.
L'autorité masculine, oui, tout à fait.
Et leur père, c'est une vraie société patriarcale. Donc vous faites,
c'est une société caricaturalement patriarcale.
C'est ça.
Donc, c'est comme une expérience in vitro, c'est beaucoup plus facile à montrer.
Ouais.
Et pour moi, ça existe toujours, mais c'est beaucoup moins facile à voir.
Alors, Gilbert Melki, on l'a vu jouer des doudingues dans d'autres films, on l'a vu jouer de grands névrosés. Là, il joue le méchant. Mm-hmm. On l'a pas souvent vu dans des rôles de méchant. Il est exceptionnel en Marc-Antoine de Leverpré. De l'envers.
L'envers.
Tu veux demander le divorce?
Mais qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi enfin!
Ne nie pas, Maître Dugommier m'a prévenu. Tu lui as demandé des renseignements sur la procédure. Il y a un autre homme, c'est ça?
Mais non, il n'y a pas d'autre homme!
Mais je suis sûr qu'il y a un autre homme!
Mais lâche-moi!
Alors pourquoi? Tu es à moi.
Lâche-moi.
À moi pour la vie. Tu en as fait le serment. Jamais je n'accepterai que tu me quittes, tu entends? Jamais.
Voilà la colonne vertébrale, l'une des colonnes vertébrales de cette série, incarnant ce que cette Troisième République peut avoir de très violente, en réalité, parce que vous dépeignez une société très violente à l'égard du peuple, à l'égard des femmes, en fait, à l'égard de tous ceux qui n'ont pas le pouvoir.
Tout à fait, oui. Alors, à l'époque, il y avait un article de loi qui s'appelle l'article rouge, qui autorisait un mari à tuer sa femme s'il la surprenait avec son amant, sous son toit, je crois. C'était
là aussi, débat très, très, très actuel, Catherine
Lambert. Donc, voilà, on revient quand même de loin et je crois que ben, y a toujours des traces actuellement de cette domination masculine. Les hommes se sentent autorisés à tuer leur femme.
Je cite deux autres personnages formidables. Théo Fernandez qui joue Julien de la Ferté, le fiancé d'Alice. La lâcheté incarnée des hommes pendant l'incendie. Josiane Balasco qui surclasse tout le monde, à mon avis. La folie d'une mère qui a perdu sa fille, sa dureté, son extrême richesse. Elle incarne peut-être tous les mensonges et les hypocrisies de cette haute société. En même temps, c'est une femme qui agit, Catherine Rambert. C'est une femme qui prend son destin en main.
Tout à fait, tout à fait. Alors bon, elle a. Est-ce qu'on spoil? Non, il faudrait peut-être pas.
Non, on spoil pas.
On spoil pas. Donc c'est difficile de répondre à votre question sans spoiler. Donc,
non, mais comment vous les avez? Je
si
cite.
Si elle prend le destin en main pour sauver sa famille,
voilà,
suite au décès de sa fille, qu'on a
absolument sauver son petit-fils.
Voilà. Exactement. Non, je vous en parle à tous parce que je trouve que souvent, ce qui pêche dans une grande série populaire française, ce sont les personnages repoussoirs, ce sont les personnages de méchants qui sont souvent assez peu crédibles ou trop manichéens ou trop homogènes. Là, ils sont riches, ils sont complexes. Ils accrochent, ils sont redoutables, en même temps ils sont fascinants, Alexandre Laurent.
Humain,
vous les avez dirigés comment?
Les diriger comment? C'est-à-dire, je comprends pas bien.
Comment vous dirigez vos acteurs dans cette série en costume où tout pourrait être, comment dire,
guindé,
très falbala, très joli, très.
J'essaie
qu'ils. Pas du tout le cas.
Non, pas du tout le cas, c'est très vivant.
J'essaie qu'ils soient crédibles par rapport à ce qu'ils ont à faire dans l'histoire de leur personnage, parce que je pense que les comédiens sont le vecteur, en fait, de nos histoires. Après, la question est un peu bizarre pour moi, je les dirige par rapport à ce qu'ils ont à faire dans l'histoire.
Oui, c'est ça.
En fait.
Non, mais c'est vrai que
j'aime bien qu'ils soient crédibles et réalistes, parce que pour moi, le comédien est vraiment le vecteur de notre histoire. Donc, on a beau de faire de bonnes images et une belle histoire, si eux ne sont pas bons, en fait, je pense que le film...
Catherine Rambert.
Je crois que les comédiens, avec l'aide d'Alexandre, se sont vraiment emparés des personnages et ils les incarnent et ils vont au-delà, parfois, de ce qui est écrit. Hein. Donc, c'est pour ça, c'est formidable.
Alors, ce qui est écrit, justement, c'est intéressant d'ancrer cette histoire au 19e siècle, où l'incendie du bazar de la Charité a eu lieu, parce que c'est l'essence même du feuilleton français.
Tout à fait, tout à fait. J'y ai pensé à ça aussi.
Évidemment, puisque.
Les grands feuilletons populaires de l'époque.
Voilà. Et le bazar de la Charité est écrit avec moult rebondissements. Pour ma part, j'ai assez peu dormi puisque j'ai regardé la série dans son intégralité.
C'était le challenge.
C'est difficile de de lâcher. Oui, donc c'est mieux. Toute une écriture soignée sur la chute d'un épisode avant d'accrocher le suivant.
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle le cliff ouais. de fin d'épisode pour que les gens ne lâchent jamais l'histoire. Et ça se crée, évidemment, ça s'invente. On se dit, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un moment fort, un moment où les gens ont envie de savoir ce qui va se passer et il faut attendre la semaine prochaine.
Alors évidemment, on l'a déjà fait comprendre, c'est une série très politique. Gilbert Melki, encore.
Les prochaines élections seront cruciales. Si je remporte la présidence de la Chambre, vous pouvez compter sur moi pour restaurer la grandeur de la France. Mais avant tout cela, il faut éliminer ces germes révolutionnaires, ces idées malsaines qui abîment notre beau pays et qui nous font ressurgir le spectre d'une nouvelle vague d'attentats. Le préfet Leblanc a une communication très importante à vous faire.
Nous sommes persuadés que l'incendie du bazar de la Charité est un attentat anarchiste.
Alors, qu'est-ce que vous avez choisi de garder de cette Troisième République, Catherine Rambert ? Parce que, en fait, on est, pour que tout le monde nous suive, en gros, on est après la Commune, on est après la guerre.
La guerre 70.
Voilà. On est en pleine affaire Dreyfus. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est complètement inexistant. Voilà. Et on est après, enfin, au terme de longues années de flottement entre les républicains et les monarchistes. En fait, voilà. C'est vraiment une société très, très, très divisée politiquement.
Tout à fait. Comme toutes les sociétés, ouais. malheureusement. Ouais. Et je trouve que ça peut ressembler à la nôtre aussi.
Ouais.
Donc, à l'époque, les attentats anarchistes existaient. Il y a eu l'assassinat de Poincaré, etc. C'est bien ça?
Sadi Carnot.
Oui, c'est ça, par un anarchiste, enfin donc le chef d'État quand même. Hein, donc vraiment, c'était très fort. Et je trouve que ça résonne avec notre époque. Donc ça m'a fasciné.
Ouais.
Et ensuite, les qu'est-ce que
c'est Non, je me demandais ce que vous aviez gardé de cette période-là. Par exemple, vous avez mis de côté Dreyfus, vous avez mis de côté l'antifétisme.
Alors, l'affaire Dreyfus, j'accuse, c'est plusieurs mois après. Hein.
Ouais.
C'est, donc,
Ça avait commencé avant, mais c'était moins...
C'était les tout débuts et c'était moins important que ça l'a été à partir de l'année d'après.
Ouais, l'après.
Donc, c'est pour ça. Et puis, moi, je me dis, bon, puisqu'il y a quand même un secret, des trahisons, des secrets militaires qui sont vendus, pourquoi
C'est ça, le clin d'œil, il est là, totalement.
Donc,
est-ce que c'est facile de vendre aujourd'hui, puisqu'il ne s'agit pas seulement de l'écrire, une série en costume aux chaînes françaises?
Ça a été très dur pendant longtemps. C'est une série que je porte depuis très longtemps. Je
2007,
voulais faire
je
crois. Depuis 2007,
depuis
même
2007,
avant.
Hein.
Oui, tout à fait, 2007.
Ouais.
Et puis bon, parce qu'il m'a fallu du temps aussi pour trouver les trois personnages principaux des femmes, etc.
Ouais.
Mais c'est difficile puisque j'y arrivais pas jusqu'à ce que la productrice Iris Boucher s'emballe pour ce
c'est
projet.
C'est quoi de production ?
Quoi de production ? Et TF1 qui est parti dessus, qui à fond, en disant nous on veut faire une série historique.
Et vous, Alexandre Laurent, c'est votre première série en costume?
Vraie première. J'en avais fait une autre avec Iris qui s'appelait Le Secret d'Élise, qui était sur trois époques, mais totalement en costume.
Oui. Totalement en costume. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette aventure-là de réalisation et de production?
La rareté,
les
moyens mis en œuvre pour pouvoir y arriver,
c'est-à-dire
pouvoir réaliser un incendie pendant tout un épisode, c'est très rare. Le costume, j'en avais jamais fait. Puis toute la fresque.
Et toute la fresque, tout évidemment. Merci beaucoup à tous les deux, Catherine Rambert et Alexandre Laurent.
Beaucoup.
Donc le bazar de la charité commence ce soir sur TF1. Moi, je trouve les deux premiers épisodes pas forcément les meilleurs, mais ça prend un sacré souffle en avançant au fur et à mesure des huit qui arrivent. Non, mais je vous le dis.
Il faut pas rater les deux premiers.
Et après, c'est de mieux en mieux. Donc si vous aimez ce soir, revenez la semaine prochaine.
C'est ça, ça prend un sacré souffle. Ça devient de plus en plus politique et de plus en plus palpitant. Merci à tous les deux. Bonjour Ali Rebbi.
Bonjour Sonia De Villers. Débat ce matin sur les médecines complémentaires et alternatives, homéopathie, acupuncture, hypnose, ostéopathie, phytothérapie, des médecines, des pratiques qui recueillent l'assentiment d'une large majorité de Français, mais qui peuvent éveiller des soupçons avec des risques parfois de dérives sectaires.
Oui.
Et vous nous appelez ce matin pour participer au débat au 01 45 24 7000.
Et vous allez faire péter le standard, parce que voilà le genre de sujet qui fâche.